Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ok, on y va. Donc là, on est sur le salon du livre de Colmar, avec moi, Stéphane Alix. Le salon du livre de Colmar, chaque année, annuellement, des auteurs viennent de toute la France pour présenter leurs ouvrages. L'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». Donc « Regarde ailleurs », c'est cette envie d'élargir sa vision sur soi et sur le monde à travers des parcours de vie, des expériences de vie, de réalisateurs, de voyageurs, d'écrivains. Stéphane, donc avec vous, on va parler de votre dernier bouquin qui s'appelle
« La mort n'existe pas ».
La mort n'existe pas, mais avant de parler du bouquin, je m'intéressais un petit peu à votre itinéraire de vie. Parce que je crois que le voyage occupe une grande part, le voyage intérieur mais aussi extérieur, une grande part dans votre existence. Donc on va peut-être revenir dans le passé et parler un peu de votre parcours de voyageur qui a commencé, je crois, en Afghanistan.
En Afghanistan, en 1988, j'étais adolescent, enfin j'avais 19 ans à l'époque, je voulais devenir reporter de guerre. C'était une espèce de fixation que j'avais depuis l'adolescence. Et donc je suis parti sans diplôme, sans rien du tout, rejoindre des Moudjahidines qui, à l'époque, luttaient contre l'invasion soviétique. Et je suis devenu journaliste sur le terrain, en fait, comme ça. D'abord à travers ce premier voyage qui a été très marquant, et puis ensuite à travers de nombreux voyages, essentiellement en Asie, pour apprendre sur le terrain, apprendre un métier de photographe, de reporter.
Mais là, l'idée, c'était de voyager pour s'ouvrir sur le monde, ou c'était vraiment de travailler avec un appareil photo comme reporter? Quel était le projet à la base avant de partir? Quelles étaient les motivations qui vous ont emmené finalement à quitter la France à cette époque-là?
Dans ces années-là, c'était vraiment... Je voulais devenir reporter de guerre. C'était très, 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 très ancré comme désir en moi. Je voulais être photographe de guerre, plus précisément. J'avais été nourri par les photos de tous les grands photographes qui avaient travaillé notamment sur le conflit au Vietnam. Et c'était extrêmement naïf, extrêmement peut-être idiot comme motivation, mais c'est ce que je voulais faire. Je voulais aller sur une ligne de front, je voulais voir la guerre de près, je voulais pas y participer du tout, ça c'était très clair, mais je voulais la photographier. Et assez rapidement, en fait, j'ai vu que je ne pourrais pas vivre de mon métier de photographe uniquement. Donc j'ai aussi commencé à écrire, pour écrire des articles qui accompagneraient mes photos. Et dans les mois puis les années qui ont suivi, j'ai vraiment fait les deux en essayant de vendre textes et photos de mes reportages dans les principaux titres de la presse française.
Et donc déjà à l'époque, il y a un rapport avec la mort finalement. Si on veut à 18 ans être photographe de guerre, c'est aussi être confronté à la vie et à la mort.
Oui, c'est vrai que quand je regarde mon parcours a posteriori, la mort, la violence a toujours été très très présente, oui. J'en ai compris certains des ressorts, je le livre dans certains de mes livres. Mais effectivement, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui sort de l'ordinaire, ce qui m'intéresse, c'est ce qui sort de la norme. J'ai besoin de comprendre comment des gens fonctionnent quand ils ne fonctionnent pas comme moi. J'ai besoin de comprendre des états un peu limites. Et c'est vrai que les lignes de front que j'ai arpentées à partir de l'âge de 19 ans sont des endroits vraiment à part, où il y a paradoxalement une intensité de vie. C'est un endroit où vous pouvez mourir d'une seconde à une autre, de façon complètement arbitraire, de façon complètement inattendue. Et est-ce que j'allais y chercher de l'énergie de vie? Je ne sais pas. Hein, les motivations, surtout à l'âge que j'avais à l'époque, sont parfois... bizarre et étrange, mais c'est un fait qu'effectivement que la mort a été présente tout au long de ma vie.
Et c'est vrai que c'est dans ces contextes-là qu'on se sent pleinement vivre et exister aussi.
Sans doute, oui, c'est vrai que c'est quelque chose de très paradoxal sur cet endroit qui est une ligne de front. Il y a à la fois la peur, il y a à la fois le danger, il y a à la fois le risque de mourir d'une seconde à une autre, et en même temps une forme d'intensité... Là, vos questions me poussent à y réfléchir, et je pense que d'une certaine manière, ça vous met dans le présent, dans un espèce de présent très intense. On passe notre vie, ça c'est le regard que je porte maintenant, à 55 ans, hein, on passe notre vie à sans cesse anticiper ce qui va se passer sur la base de ce qu'on a déjà appris. Donc on est dans une forme de remémoration, anticipation. On n'est jamais dans le présent, en fait. Notre cerveau n'est pas câblé pour être dans le présent. Et peut-être qu'effectivement, quand... Quand je suis sous un bombardement, quand je suis sur une ligne de front, il y a quelque chose qui, le passé disparaît parce qu'il n'a plus aucune espèce d'importance, le futur n'existe pas encore et on est dans cette espèce d'intensité du présent où il y a beaucoup de peur, beaucoup de tension, mais en même temps c'est le présent. Et manifestement, il y a peut-être un secret à trouver dans le présent, c'est ce que nous invite plein de traditions spirituelles et notamment la méditation, à retrouver la magie de l'instant présent. Bon bah voilà, quand j'étais adolescent, je suis parti sur une ligne de front, je suis devenu alcoolique, je suis peut-être allé chercher le présent et cette dimension spirituelle dans des endroits où je pensais le trouver mais qui n'y était pas, et je l'ai découvert après coup, quoi.
La dimension spirituelle, on en parlera un petit peu plus tard dans cette émission aussi. Je reviens quand même encore sur ce chapitre de vie, hein, en tant que photographe de guerre et reporter de guerre. Combien de temps ça a duré ?
Ça a duré une petite quinzaine d'années, enfin un peu moins. J'ai commencé en 1988 en Afghanistan et puis ça s'est 13 ans en fait, parce que ça a pris une tournure très différente en 2001, toujours en Afghanistan. Quand j'ai perdu mon frère dans un accident de voiture, mes frères et puis plusieurs Français travaillaient avec moi dans ce pays. Et un accident de voiture a mis fin à une mission que je dirigeais à ce moment-là, 6 mois avant le 11 septembre. Et j'ai pas cessé d'être journaliste, mais disons que j'ai complètement, radicalement changé d'espace et de sujet d'intérêt.
En tout cas, c'est sur cette histoire, cette anecdote que commence le bouquin « La mort n'existe pas ». Mais donc, je reviens quand même sur cette profession, parce que c'est quelque chose d'assez intéressant pour les jeunes qui veulent se lancer, parce que vous disiez que vous êtes parti sans avoir le diplôme, et vous avez réussi finalement pendant 15 ans ou 13 ans à vivre de la photographie et du reportage.
Alors c'est précaire, hein. C'était précaire. Hein. Le journalisme, c'est franchement pas un métier où on va gagner sa vie facilement, mais en même temps, bon... Je pense que le regard que je porte aujourd'hui sur la vie à 55 balais me permet de voir que ça passe vite quand même. Ça passe vite et ça passe vite surtout quand on fait les mauvais choix. Et j'ai pas le sentiment, et c'est ce que j'essaie d'inculquer à ma fille qui est adulte aujourd'hui, que rien ne vaut en fait de ne pas suivre ses rêves et de ne pas suivre ses élans, surtout ses élans. Parce que quand on ne suit pas nos élans, on finit par le regretter un moment ou un autre. Et il n'y a rien qui ne mérite d'être raisonnable, entre guillemets. Raisonnable, c'est-à-dire, oh là là, il faut que je sois raisonnable, il faut que je pense à trouver un boulot, il faut que je stabilise ma vie, etc. Oui, c'est important, c'est intéressant, mais je pense que si on suit ses élans, si on est vraiment, si on prend le risque de se lancer dans l'inconnu, parce que c'est ce à quoi on est appelé, c'est ce qu'on a envie, c'est ce qui brûle en nous, on est aidé, on est toujours accompagné. La vie, c'est pas forcément pour reprendre ce titre de film, un long fleuve tranquille, la vie, ça ne va pas être forcément une promenade de santé où on va être loin de toute adversité tout le temps. Mais c'est peut-être aussi dans les épreuves, c'est peut-être aussi dans les moments très difficiles qu'on apprend des choses essentielles. Et pour ça, bah, il faut sortir de sa zone de confort, il faut sortir de cette carapace qu'on a tendance à vouloir se mettre sur les épaules et puis vivre, quoi, vivre et écouter ce qui brûle en nous. On a tous quelque chose qui brûle en nous.
Oui, donc ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. Et c'est vrai que quand on saute, souvent le filet apparaît, il y a une forme de magie qui quelquefois opère. On se rend compte que quand on est vraiment à l'écoute de notre intuition, notre ressenti, bah des fois il y a, je sais pas, le plan divin, on peut appeler ça comme on veut, les choses se mettent en place pour pouvoir arriver à ses fins. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous avez constaté ça dans votre parcours de vie ?
Bah ça, je l'ai constaté, oui, parce que j'ai... Donc après la mort de mon frère en 2001, j'ai commencé à changer de domaine d'intérêt et à m'intéresser à la question de la vie après la mort, mais à travers d'abord un prisme extrêmement scientifique, rationnel, cartésien. En faisant ce travail d'enquête, j'ai découvert que, si je dois synthétiser des années de travail en quelques mots, hein, j'ai découvert que la dimension spirituelle est une dimension fondamentale de notre existence, que nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine dans la matière, que cette dimension spirituelle, elle est objectivable par la science, elle peut être mise en évidence par des expériences, par des phénomènes, c'est pas une croyance, c'est vraiment quelque chose qui peut être déduit scientifiquement et rationnellement.
Est-ce qu'on peut donner des clés de compréhension ? Parce que cette expérience spirituelle qu'on vient vivre sur Terre, je peux l'entendre, on est quand même dans un monde très rationnel et très matériel, où rien n'est fait pour mettre en avant le spirituel. Donc est-ce qu'on peut avoir, je sais pas, peut-être des signaux pour nous permettre de percevoir à quel point on est là pour vivre cette expérience spirituelle ?
Bah c'est, pour moi, c'est pas une profession de foi, c'est vraiment un constat scientifique, hein, rationnel. J'ai commencé mon enquête, par exemple, sur ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, qui sont ces expériences que vivent des hommes, des femmes, pendant un accident de voiture, pendant un accident sur une table d'opération, un coma, etc., où, à un moment où leur cerveau fonctionne pas ou très mal, ont des expériences d'intense conscience, sortent de leur corps, voient la lumière, etc. En quelques mots, ces expériences, elles ne sont pas possibles. parce qu'elles se produisent dans des moments où le cerveau parfois ne fonctionne plus du tout, donc n'est pas en capacité de produire une expérience de conscience. Donc soit ces gens-là inventent et tout ça est une fumisterie, ce qui n'est pas le cas, j'ai enquêté sérieusement dessus, soit ces expériences se produisent parce que notre conscience n'a pas un lien de causalité avec le cerveau. Notre conscience ne naît pas de notre activité cérébrale, chose sur quoi notre société et notre vision du monde est entièrement basée. Ça, c'est faux en fait, c'est faux. Ça n'a jamais été démontré scientifiquement. La question de la conscience demeure un des plus grands mystères qui soit pour les neuroscientifiques eux-mêmes. Donc l'espèce de certitude dans laquelle nous vivons tous, sans même nous poser la question de dire notre cerveau fabrique notre pensée, notre conscience, et quand le cerveau ne marche plus, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de conscience. Tout ça, c'est une croyance en fait. C'est une croyance qui n'est pas démontrée scientifiquement. Donc à partir de là, on peut s'intéresser aux expériences de conscience que sont les expériences de mort imminente ou plein d'autres expériences, la médiumnité par exemple, avec un regard très très différent, en se disant mais après tout, est-ce que ces expériences-là ne révèlent pas justement cette dimension immatérielle qui nous constitue, cette dimension spirituelle de notre conscience qui n'est pas réductible à notre activité cérébrale et qui d'une certaine manière est immortelle et, pour reprendre un terme de physique, non locale. Il y a une partie de vous, une partie de moi, une partie de tous celles et ceux qui nous écoutent qui n'est pas bloquée dans le corps, qui est capable de perception à très grande distance dans le temps et dans l'espace. Donc c'est une dimension spirituelle par essence. Et quand on vit des expériences comme celles que j'ai pu expérimenter, notamment en Amazonie avec les chamans, quand je vais moi-même faire ces expériences d'état modifié de conscience et que je vais dans ces mondes spirituels, je découvre qu'ils ne sont absolument pas des mondes métaphoriques, que ce n'est pas des images, que ce n'est pas des croyances un peu naïves de la part de trois sauvages tout nus dans la forêt. C'est vraiment des dimensions qui influent notre réalité matérielle. Le monde matériel dans lequel nous vivons et qui semble si solide est en fait un reflet d'une réalité plus profonde sous-jacente à ça, qui est une réalité spirituel, mais ça, vous savez, Platon le disait il y a 2 siècles. Les grands philosophes ont déjà eu l'intuition que notre réalité ne pouvait pas se réduire à ce que nous voyons, à ce que nous observons. Et depuis un peu plus d'un siècle, les physiciens quantiques nous disent exactement la même chose. Nous disent que la réalité matérielle que nous observons est un phénomène d'une réalité presque, enfin voilée, mais presque inconnaissable, tellement elle est inaccessible à nos concepts, à nos pensées, parce qu'elle est déjà même hors du temps. Et ça, c'est scientifique ce dont je parle. Et donc moi, mon chemin, à partir du moment où ce constat scientifique et journalistique a été fait de façon très rationnelle, j'ai commencé à laisser se déployer et à vouloir explorer moi-même ces dimensions spirituelles. Je l'ai fait à travers le chamanisme, je l'ai fait en travaillant sur le livre des morts tibétains au Tibet, je l'ai fait dans plein de différentes traditions spirituelles, et ça m'a permis de vivre moi-même ces dimensions qui sont présentes au quotidien. C'est ce dont je me suis aperçu a posteriori. Votre intuition, quand par exemple vous rencontrez quelqu'un, vous ne le sentez pas, ou au contraire, vous le sentez bien. Vous passez devant un endroit, vous le sentez bien, vous êtes attiré par cet endroit. Vous avez une intuition de telle ou telle chose. Tout ça, c'est le langage de notre dimension spirituelle. Tout ça, c'est l'expression de notre âme qui essaie de nous envoyer des signaux à travers et malgré l'activité de notre cerveau qui, lui, ne passe son temps à se dire « Non, moi j'ai bien réfléchi, je contrôle tout, je vais te donner la solution parce que j'ai déjà acquis de l'expérience. » Mais notre cerveau, d'une certaine manière, c'est un inhibiteur d'âme, c'est quelque chose qui écrase notre conscience et notre dimension spirituelle au quotidien. En même temps que c'est un outil formidable pour faire de nous des êtres humains adaptés à cette réalité aussi.
Oh,
Donc j'entends que sur ces 15, 20, 25 dernières années, vous avez passé votre temps avec comme fil rouge donc d'explorer les différentes formes de réalité, les différentes formes de conscience à travers différents peuples, différentes traditions sur différents continents.
Exactement, exactement, parce que je... Voilà, la mort de mon frère il y a 22 ans a ouvert une question vertigineuse qui s'ouvre chez toutes les personnes qui perdent quelqu'un. Sauf que moi j'ai un côté un peu radical et à l'âge que j'avais, à 32 ans, il n'était pas concevable que je reprenne ma vie comme si de rien n'était. J'ai ramassé le corps de mon frère en Afghanistan, je l'ai ramené à mes parents. Il n'était pas question que je reprenne ma vie en me disant bon bah voilà il est mort, je vais passer à autre chose. J'avais besoin de remplir ce vide énorme qui avait été créé par sa mort. J'avais envie de mettre du sens sur ma vie, mais après tout, qu'est-ce qu'on fait là ? Je veux dire, si tout peut s'arrêter en une fraction de seconde sur une route à cause d'un banal accident, c'est quoi la logique de tout ça ? Est-ce qu'il y a un sens ? Est-ce qu'il n'y a pas de sens ? Est-ce que... et donc, toutes ces questions, je savais pas du tout comment les aborder parce que j'ai même pas passé mon bac, donc j'ai aucune compétence philosophique, je suis pas théologien non plus, j'ai pas de croyance spirituelle particulière, enfin religieuse particulière. Donc du coup, j'avais que mes outils de journaliste en fait pour commencer à questionner ce sujet de la mort. Et effectivement, à partir du moment où j'ai commencé à rencontrer des chercheurs et à valider rationnellement l'idée que ma conscience n'était pas réductible à l'activité de mon cerveau, bah là, ça a ouvert le champ à plein de domaines où je me suis aperçu que certaines traditions spirituelles avaient déjà des mots pour décrire ces dimensions fondamentales qui nous constituent. Et des mots qui étaient élaborés non pas par un chemin scientifique, mais par une expérience d'introspection, par une expérience... la méditation, par exemple, qui est une tradition qui nous vient de l'Inde et puis après du bouddhisme, est une méthode d'introspection des dimensions infinies de notre conscience. Nous, en Occident, on dit « bon, c'est subjectif, donc ça n'a aucune valeur scientifique ». Mais les Tibétains, notamment, ont développé une connaissance de la psyché et de la conscience formidablement extraordinaire grâce à ce travail d'introspection. On peut être rationnel, on peut être cartésien, tout en s'engageant dans une exploration subtile des dimensions de la conscience.
Mais à entendre ça, je me dis qu'on vit dans un monde sacrément étriqué où aujourd'hui rien n'est fait pour nous permettre de développer ces potentiels qu'on a en nous.
Ben non, parce qu'on vit dans une société depuis quelques siècles seulement qui a suivi cette voie exclusive de la science, de la réplicabilité. On ne postule maintenant que l'on ne peut connaître le monde qu'en en découpant ses parties, qu'en mesurant, qu'en observant les causes et les effets. Parce qu'effectivement, on est parti dans une direction qui ne se focalise plus que sur l'aspect matériel de cette réalité. Mais en même temps que la science nous a donné aussi, pour moi, des choses formidables et la possibilité de partager un tronc commun de connaissances sur le réel qui nous entoure, je pense qu'elle nous offre aujourd'hui la possibilité de revenir vers une dimension spirituelle. Parce que dans différentes disciplines, la science se confronte à une forme de limite intrinsèque de ses outils. La physique, pour ne reprendre qu'elle, depuis un peu plus d'un siècle, la physique nous reconfronte à nouveau à l'impossibilité de connaître la nature fondamentale de la réalité. Elle nous confronte à l'impossibilité de savoir ce que c'est que le réel. On ne peut voir et observer et mesurer qu'une partie voilée de cette réalité. Donc les physiciens quantiques sont les premiers à dire bah, « Waouh, on a besoin de la philosophie pour penser ce que l'on découvre à travers nos équations. » Mais ce vertige, cette fragilité, elle touche aujourd'hui maintenant la biologie, les neurosciences. Donc voilà, la science en fait c'est pas l'alpha et l'oméga de nos outils qui nous permettent de vivre et d'appréhender ce monde. C'est un outil formidable, extraordinaire, qui a permis des avancées, qui a permis des choses formidables, notamment en médecine, mais qui ne permet pas tout non plus. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ma rencontre avec des scientifiques dans plein de disciplines différentes qui sont les premiers à avoir beaucoup, beaucoup de modestie et de se dire « Mais attendez, la science n'est pas l'outil qui permet de répondre à la question du spirituel, par exemple. » Un de mes amis, qui était le parrain de mon frère Thomas, était physicien au CERN, un grand physicien français, mais en même temps très chrétien et très croyant. Et il m'a dit « Mais les deux choses n'ont rien à voir. » Ma foi n'intervient pas dans mon travail scientifique, mais la science n'intervient pas et ne peut pas intervenir dans mon travail spirituel parce que c'est pas l'objet. La science me permet de faire des expériences, de découper telle chose, de postuler telle hypothèse, mais elle donne pas des réponses aux grandes questions philosophiques. Et c'est pas sa vocation en fait. Alors que moi, comme sans doute beaucoup de gens, très naïvement, avant d'explorer ces domaines-là, je pensais que la science répondait plus ou moins à tout, quoi. C'est un peu comme un enfant, vous savez. On pose plein de questions à son papa. Pourquoi les oiseaux font ci, pourquoi ça. Et on grandit en s'imaginant que si notre père n'a pas forcément les réponses, au moins la science les a. Ben non. Et c'est profondément apaisant de s'apercevoir que plein de scientifiques reconnaissent ces limitations, sont très modestes, et du coup rendent rationnel de s'interroger sur plein de domaines qui sont d'ordinaire classés un peu abruptement ou un peu péjorativement dans le surnaturel ou dans le spirituel ou dans le « oh là là, c'est bizarre », voilà.
Mais la science, donc en tant que chercheur de vérité, hein, vous êtes aussi, vous avez fait un pas de côté pour aller voir ce qui se passe, on l'a vu, au Tibet ou dans la forêt amazonienne, où là c'est une autre forme de science, une autre forme de connaissance qui est des fois reliée au sacré ou aux plantes.
Oui, je pense qu'il y a, encore une fois, ce que j'ai découvert à travers le chamanisme ou à travers les connaissances du bouddhisme, c'est qu'il y a différentes méthodes pour interroger le réel, et que les unes ne sont pas meilleures que les autres, elles sont toutes très complémentaires en fait. Moi j'adore... aller en Amazonie, travailler avec des chamans pendant quelques mois, vivre des expériences à la frontière du réel, et revenir et parler avec de neuroscientifiques des études qu'ils font sur les substances psychédéliques utilisées en Amazonie, parce que leurs observations viennent enrichir les expériences que je peux vivre en Amazonie, et en même temps l'expérience que je vis en Amazonie enrichissent aussi les résultats d'expériences scientifiques qui sont faites dans tel laboratoire à Londres ou à Baltimore ou ailleurs. C'est vraiment un travail je pense que l'intelligence, elle se nourrit justement d'une multiplicité d'accès à ces phénomènes, à cette réalité dans laquelle nous vivons, et qu'il n'y en a pas une qui est parfaite et les autres complètement inutiles, quoi.
Je veux bien qu'on développe un petit peu cette notion de psychotrope, parce que c'est vrai que dans le règne végétal, hein, ce pouvoir de pouvoir nous nourrir en mangeant des tomates, nous soigner à travers la pharmacopée qui viennent souvent des plantes médicinales, des plantes qui sont aussi venimeuses, hein, qui peuvent tuer, ôter la vie, mais des plantes qui ont aussi cette possibilité d'élargir le champ de conscience. Donc en Amazonie, on parle souvent de l'ayahuasca, du peyote, du San Pedro, hein, voilà. Donc l'usage de ces plantes encore très présente dans certains peuples du monde, alors que nous, nos psychotropes, hein, qui étaient la psilocybine, aujourd'hui n'est plus du tout utilisé. Peut-être un mot sur ces expériences-là que vous avez pu vivre à l'étranger, dans ces traditions, dans ces cultures, sur la place de la plante, hein, qui n'est pas du tout la même que chez nous en Occident.
Ben oui, si on aborde ça du point de vue de la plante, c'est assez bizarre en fait, parce qu'effectivement les plantes vont sécréter des substances pour se protéger, pour se reproduire, pour attirer des animaux qui vont les polliniser, etc. Enfin, il y a toute une batterie de substances, de molécules qui sont produites par le monde végétal pour différents usages. Sauf que vous avez des plantes et des champignons qui produisent du DMT, de la psilocybine, qui sert à rien, qui sert juste à nous faire rêver, en fait, à nous faire accéder, nous humains, ou peut-être les animaux aussi, à d'autres plans de réalité. Et donc là, on se demande, mais quelle est l'utilité évolutionnaire, en fait, de la production de cette plante, ces substances, si ce n'est peut-être, ce qu'en disent les chamans, d'ailleurs, que certaines de ces plantes sont nos alliés, sont nos guides, et que si elles produisent ces substances, c'est pour créer des alliances avec les hommes, pour explorer ce monde spirituel. Alors là, on entre dans un univers mystérieux, mais il y a un chercheur français qui s'appelle Romuald Le Terrier, qui a publié plusieurs livres où il s'intéresse à cette question-là d'un point de vue végétal, et il a fait un travail vraiment formidable. Je fais une petite parenthèse parce que son travail vraiment mérite d'être souligné, Romuald Le Terrier. Maintenant, moi, ce qui m'a intéressé dans ces substances, c'est que elles ont été utilisées effectivement à travers le monde entier, dans plein de traditions différentes, pour induire des états de conscience modifiés et accéder à un monde spirituel. Mais elles sont, depuis les années 40-50, et puis avec un stop dans les années 70-80 et un renouveau maintenant, elles sont à nouveau étudiées fortement par le monde scientifique et le monde médical, parce qu'elles ont des usages thérapeutiques qui sont prodigieux pour travailler paradoxalement sur les addictions, mais aussi sur la dépression, sur un certain nombre de pathologies psychiques qui, grâce à leur emploi, peuvent être soignées, alors que des thérapies classiques ne sont plus du tout opérantes sur ces pathologies-là. Donc il y a beaucoup de recherches qui sont faites aujourd'hui. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement d'aller explorer à la fois la dimension traditionnelle de ces plantes utilisées depuis des millénaires, notamment en Amazonie, et en l'utilisant et en apprenant à naviguer dans ces états, de m'apercevoir que ces états ne sont pas uniquement métaphoriques, uniquement imaginaires, que ce sont des états réels. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les expériences qui sont faites sur les psychotropes aujourd'hui dans des laboratoires montrent que leur action sur le cerveau est à l'opposé d'une action hallucinatoire. C'est-à-dire que Les premiers chercheurs qui ont travaillé là-dessus il y a une dizaine d'années ont injecté de la psilocybine notamment à des volontaires pour induire des états d'extase très forts pour essayer de voir ce qui s'allume dans le cerveau quand on vit un tel état. Et à leur grande surprise, ils n'ont pas vu le cerveau s'allumer au moment de l'extase et au moment du pic de l'expérience du témoin, mais ils ont vu le cerveau s'éteindre. Donc ça bouscule tous les modèles, parce que normalement une expérience d'extase, une expérience psychospirituelle intense devrait correspondre à une activité cérébrale intense, un feu d'artifice dans votre cerveau, et c'est l'inverse qu'ils ont observé. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça match aussi avec ce que vivent notamment les expérienceurs de mort imminente, qui eux décrivent une expérience de conscience intense, une expérience de perception extrasensorielle intense, à un moment où le cerveau ne fonctionne plus. Donc les expériences de mort imminente, l'expérience chamanique, l'expérience de psychédélique et autres commencent à indiquer, à la fois du côté traditionnel et à la fois du côté scientifique, que le cerveau ne sert peut-être pas du tout à produire la conscience, mais serait plutôt une sorte d'appareil de filtrage de la conscience. La conscience serait comme une sorte de cloud, immatériel, immanent, intemporel, et qu'à travers un cerveau, elle est capable de se manifester dans le temps et dans l'espace, dans un individu. Bon, là, on touche encore des questions philosophiques, mais voilà un monde qui est absolument fascinant à explorer.
Fascinant. Le dernier bouquin s'appelle « La mort n'existe pas ». Donc, on parlait de cette expérience à l'âge de 32 ans quand votre frère est parti, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Vous disiez à ce moment-là, mais quel est le sens de la vie ? Est-ce que vous avez trouvé le sens dans cette quête ? Pourquoi ? Parce que des fois, on entend cette phrase qui peut être un peu énervante, « Tout est juste ». Est-ce que tout est réellement juste dans ce type d'incident, de départ trop vite ? Quel est le sens à ça ? Qu'est-ce qu'on donne ? Comment est-ce qu'on arrive à expliquer quelque chose d'injuste, en tout cas qui peut paraître injuste ?
Ah bah, je pourrais pas vous l'expliquer là en quelques mots, mais effectivement, je pense que l'injustice, la colère, la peur, etc., relèvent d'une forme de voile que nous avons, nous, sur la réalité. Je ne dis pas que la mort de mon frère est juste à un certain niveau, ça serait un petit peu absurde de dire un truc pareil, mais en revanche, je pense qu'au-delà de l'apparence très confuse à travers laquelle le monde nous apparaît, il y a peut-être un niveau d'harmonie caché, invisible, qui n'apparaît que quand on réussit à se mettre en résonance avec cette dimension spirituelle que nous portons au fond de nous-mêmes. Ça peut paraître un petit peu abstrait ce que je dis, mais c'est quelque chose qui est pour moi devenu une évidence aujourd'hui à travers le long parcours qu'a été le mien depuis la mort de Thomas il y a 22 ans, et puis à travers toutes mes enquêtes, toutes mes expériences et tous mes voyages notamment, tout ce que je raconte en fait de long en large dans ce livre synthèse qui s'appelle « La mort n'existe pas » et qui est vraiment le fruit de 15 ans à la fois d'enquêtes et d'expériences aux frontières de l'invisible.
Peut-être pour parler du contenu du bouquin, donc « La mort n'existe pas », quels sont les grands thèmes qu'on va y aborder ?
Il y a toute une partie scientifique donc, où j'explore la question notamment des expériences de mort imminente pour montrer que ça n'a rien à voir avec une sorte de sursaut du cerveau avant de la mort, mais qu'il s'agit précisément d'une expérience spirituelle qui marque le début de ce que l'on va vivre au moment de la mort. Je parle de la médiumnité, je parle du programme d'espionnage extrasensoriel des Américains, de la CIA, qui utilisait des voyants pour montrer justement le pragmatisme d'un service de renseignement qui utilise quelque chose parce que ça marche, la voyance en l'occurrence. Je parle de toutes ces expériences de contact spontané avec des défunts au moment de la mort. Je parle de l'ensemble de ces phénomènes de conscience qui, quand ils sont étudiés sérieusement par des médecins, par des chercheurs, etc., montrent leur réalité et montrent que notre dimension ne se réduit pas à notre activité cérébrale. Et dans une autre partie, enfin en fil rouge, il y a aussi tout le cheminement qui a été le mien à travers le chamanisme, qui est un très très long apprentissage de 15 années, qui a commencé en Amazonie et qui m'a emmené après dans d'autres pays pour travailler avec différentes substances psychoactives pour vivre ces états modifiés de conscience et commencer à vivre moi-même la mort d'une certaine manière. Et j'en fais le récit détaillé dans ce livre.
Stéphane, Alix, merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.